Je crois que de tous les récits des origines, de tous les récits de création du monde, mon préféré, c'est pas un texte ancien, c'est pas un texte religieux, c'est un texte de fiction, relativement récent d'ailleurs, qui raconte la création du monde d'Arda. Arda, vous connaissez. Vous le savez pas, mais vous connaissez. Arda, c'est le nom du monde sur lequel se déroule le Seigneur des Anneaux. De Tolkien, on connaît surtout le Seigneur des Anneaux, un petit peu le Hobbit, mais Tolkien a écrit énormément de choses, et donc, je crois que mon passage préféré, c'est justement l'origine de ce monde, sa création, sa source.
Il y eut Eru, le premier, qu'en Arda on appelle Ilúvatar. Il créa d'abord les Énures, les Bénis, qu'il engendra de sa pensée. Et ceux-là furent avec lui avant que nulle chose ne fût créée. Et il fut un jour où Ilúvatar fit rassembler tous les Énures pour leur soumettre un thème magnifique qui leur dévoilait des choses plus grandes et plus merveilleuses qu'il ne leur en avait encore révélées. Son début glorieux et sa splendide conclusion éblouirent tant les Énures qu'ils se prosternèrent devant Ilúvatar sans pouvoir dire un mot. Alors, Ilúvatar leur parla. « De ce thème que j'ai proclamé devant vous, je souhaite maintenant que tous ensemble, harmonieusement, nous fassions une grande musique. Vous allez pouvoir faire preuve de vos dons, chacun jouant s'il le veut de son habileté et de son talent pour embellir et glorifier ce thème. Moi, je resterai à écouter et à me réjouir que, grâce à vous, la beauté se soit muée en musique. » Alors, les voix des Énures, telles des harpes, des luttes, des flûtes et des trompettes, des viols et des orgues, tels des chœurs aux voix innombrables, commencèrent à tisser le thème d'Ilúvatar dans une harmonie grandiose. Le son des mélodies qui se fondaient sans fin l'une dans l'autre s'éleva pour tisser une harmonie qui dépassa les limites de l'ouïe en hauteur comme en profondeur. Les demeures d'Ilúvatar furent pleines à déborder d'une musique dont les échos atteignirent le vide. Et ce ne fut plus le vide.
Vous venez d'entendre un extrait du Silmarillion de John Ronald Reuel Tolkien, J.R.R. Tolkien pour les intimes. Une lecture de Claire Chambon du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique PSL. Bon, et pour en revenir à ce que je voulais vous dire, Tolkien nous raconte un monde où, lorsqu'on remonte à la source, une musique a résonné dans le vide. Et c'est la musique qui a donné naissance au monde. C'est sublime. Bon, allez, on va arrêter cette séquence de gros nerds boutonneux à parler de Tolkien et on va commencer cet épisode. Bonjour à toutes et à tous, je suis Yann Plantier et vous écoutez Tangram, le podcast de l'Université PSL. Dans ce podcast, à chaque épisode, on prend un thème et on décline ce thème. Vous allez entendre des chercheuses et des chercheurs venus de toutes sortes d'horizons, des sciences dures, des sciences humaines, des arts et des lettres. Tangram, c'est la recherche en mode kaléidoscope. Ça se renverse, ça se mélange, ça s'éparpille façon puzzle, mais on finit toujours par y distinguer un fil rouge. Aujourd'hui, retour aux sources. On va voir ce qu'on trouve quand on regarde derrière soi, ce que le passé nous dit du présent et ce que le présent nous dit du passé. Trois séquences. Premièrement, langue en évolution. Deuxièmement, origine et migration. Et troisièmement, recette de fabrication. Pour commencer, je me suis rendu à l'École Normale Supérieure, le NSPSL.
Bonjour, vous allez bien ?
Ouais. Vous voulez qu'on aille dans mon bureau, ça va ?
Bah ouais, c'est
d'accord.
Parfait.
J'ai rencontré Daniel Petit.
Daniel Petit, je suis professeur de linguistique indo-européenne et grecque à l'École Normale Supérieure de Paris, rue d'Ulm.
Oui, c'est une première dans ton gramme. On va parler linguistique. Alors, que ceux qui se rappellent de leur cours de grammaire au collège avec angoisse se rassurent. Cet épisode n'est pas un traquenard, on ne va pas réviser le Becherel. Et d'ailleurs, je ne vois pas beaucoup d'ouvrages en français dans le bureau de Daniel Petit.
Je vois qu'il y a une étagère entière de bouquins en lituanien.
Je suis allé en Lituanie au moment où l'Union soviétique est tombée, dans les premiers temps, les années 90. Il y avait encore des barricades à Vilnius. Tout de suite, je me suis dit, il faut apprendre cette langue parce que c'est vraiment intéressant.
Et ouais, alors, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à se dire le lituanien c'est intéressant? Parce qu'en fait, ça semble pas franchement évident.
En fait, c'est l'archaïsme de la langue. Le lituanien, c'est une langue flexionnelle qui ressemble beaucoup au latin et au grec sur beaucoup d'aspects. Donc, il y a cette espèce de fascination pour une langue vivante qui se comporte comme une langue ancienne. Voilà. Mais je ne m'intéresse pas seulement au lituanien, je m'intéresse à d'autres langues, comme l'albanais, les langues indo-iraniennes, etc.
Le travail de Daniel Petit porte sur beaucoup de langues. Je ne saurais pas précisément vous dire combien, ceci dit. J'ai bien essayé de lui demander, mais...
On ne demande jamais à un mathématicien combien il peut compter, et je pense qu'on ne devrait pas demander au linguiste combien de langues il peut parler.
Enfin, toujours est-il qu'il baigne dans un océan de langues, et que sa spécialité, c'est l'histoire des langues.
L'histoire des langues, c'est l'histoire de la transmission. Cette transmission, elle peut se faire de manière directe des parents aux enfants, mais elle peut se faire de manière aussi indirecte par l'assimilation de gens qui viennent d'ailleurs et qui apprennent la nouvelle langue.
Daniel Petit s'intéresse particulièrement aux langues indo-européennes. C'est une famille de langues qui contient toutes les langues parlées aujourd'hui en Europe, à quelques exceptions près, mais aussi des langues parlées en Asie, de l'Iran jusqu'à l'Inde, ainsi que des langues aujourd'hui disparues qui ont été parlées jusqu'en Chine. Bon, alors vous allez me dire, qu'est-ce que le français, l'allemand et le sanskrit et l'ourdou ont en commun, sérieusement? Eh bien, ce que ces langues ont en commun, c'est qu'elles sont toutes issues d'une source commune, qu'on appelle l'indo-européen. Les langues indo-européennes forment un groupe parce qu'elles ont une préhistoire commune.
La préhistoire commune, ça veut dire quoi? Quand vous trouvez des structures ou même du matériel lexical partagé, hein, c'est très facile, vous prenez un mot grec, comme pater, qui veut dire le père, vous prenez un mot latin comme pater, qui veut dire le père, vous voyez, c'est le même mot. Une fois que vous avez des convergences de ce type-là, d'abord, vous devez vous dire, ça n'est pas naturel. Vous pouvez avoir des contacts historiques, c'est-à-dire qu'une langue a emprunté beaucoup de mots à une autre langue. Alors, entre le grec et le latin, c'est possible, parce qu'il y a eu des liens culturels entre les deux, mais entre le grec et le sanskrit, qui était parlé en Inde, c'est déjà plus difficile.
Comment on dit père en sanskrit?
Pitar. Donc là, la forme, elle est absolument identique. Le frère, c'est bratar, frater, etc. Donc vous avez des correspondances absolument extraordinaires qui ont frappé les linguistes à la fin du XVIIIe siècle, quand on a découvert le sanskrit en Europe. Et là, on ne pouvait pas faire intervenir l'idée de contact culturel ni d'emprunt entre les langues. Et donc il reste simplement l'idée que ces ressemblances s'expliquent par le fait que les mots de ces différentes langues proviennent d'une source commune qui a pu évoluer à travers le temps et se différencier un peu, mais qui reste malgré tout reconnaissable.
C'est fou de se dire qu'une langue parlée il y a 5 ou 10 000 ans serait à l'origine commune de l'anglais et du kurde, du polonais et du pendjabi, du sanskrit et du lituanien, etc. Comment est-ce que ça se produit? Je demande à Daniel Petit si c'est comme le français et le québécois, du genre une langue qui se divise en deux avec le temps et l'éloignement géographique. Il m'explique que c'est ça, mais pas seulement.
La langue des enfants n'est pas tout à fait la langue de leurs parents. Donc à chaque génération, il y a des variations qui sont introduites et qui progressivement vont devenir de plus en plus visibles et remplacer les structures anciennes. Et à chaque génération, ce fossé se creuse à tel point que si nous prenons des textes écrits au XVIIIe siècle, nous voyons bien que le français n'est plus le même et que la langue a changé. La langue peut aussi changer parce que vous allez avoir de la fragmentation linguistique liée à des conditions culturelles, par exemple. Des gens dans un village sont séparés des gens d'un autre village et chacun évolue dans son coin. Il n'y a pas de contact entre les deux et donc les deux usages linguistiques vont progressivement s'éloigner les uns des autres. Et puis, il y a aussi le fait que de nouveaux locuteurs arrivent, adoptent la langue et la déforment en fonction de leur langue de départ. On a tous vécu cela. Et d'ailleurs, quand nous parlons une langue étrangère, nous faisons cela. Et il suffit d'être suffisamment nombreux dans un pays pour modifier un peu la langue en fonction de ses origines de départ, et on peut faire bifurquer la langue dans une autre direction.
C'est génial d'envisager les langues comme ça. On imagine que les linguistes seraient les gardiens du temple, arc-boutés sur leurs grammaires immuables. Mais au contraire, pas du tout. J'aime bien l'idée que le linguiste étudie et accompagne les évolutions de la langue.
D'abord, il faut évacuer toute la notion de pureté. Pureté de la langue, ça ne veut rien dire. C'est un terme qui n'est pas scientifique, qui n'est pas linguistique. Toutes les langues sont mouvantes, mobiles, variables, ouvertes à des influences internes ou externes, et donc il n'y a jamais de stabilité dans la langue. Même dans l'usage d'une seule et même personne, au cours de son existence, la langue peut changer selon les registres, selon les régions, selon les interlocuteurs. Donc il n'y a pas de stabilité de la langue, à aucun moment. Toutes les langues sont en permanence en transition.
Et c'est passionnant de se plonger dans les évolutions des langues, parce que ce sont les évolutions d'hier qui font la langue d'aujourd'hui. Et la façon dont on s'exprime raconte aussi l'histoire des migrations humaines, des échanges commerciaux et culturels. Prenez cet exemple que m'a raconté Daniel Petit. Dans la Grèce antique,
les dialectes qu'on appelle ioniens et attiques, qui vont donner la langue grecque classique, ont fait évoluer un A vers E. Et donc, un mot comme makana, qui veut dire la machine, est devenu mécané. Et mécané, c'est l'origine du mot français mécanique. Mais d'autres dialectes ont gardé la forme ancienne, makana. Ce mot, il survit notamment dans ce qu'on appelle les dialectes doriens. Or, on sait que les doriens ont établi des colonies au sud de l'Italie. Le mot makana a été emprunté par le latin au dorien sous la forme machina. Ça donne la machine.
Et donc aujourd'hui, dans le français actuel, on a deux mots, mécanique et machine, qui sont très proches, mais qui bizarrement commencent pas avec la même voyelle, parce qu'ils nous viennent de l'Antiquité, mais par des chemins très différents via toute une série de rebondissements. Un autre exemple ?
Dans l'histoire de la langue française, les mots qui commençaient par K sont devenus chat. Campagne, qui est devenue champagne. Catena, qui est devenue la chaîne. Et vous en avez un très grand nombre d'exemples. Et on sait que on peut distinguer dans les régions françaises des régions où cette évolution n'avait pas lieu et des régions où cette évolution avait lieu. Dans les dialectes anciens de Normandie, on continuait à utiliser K, et dans les autres régions, on utilisait chat. C'est pour ça que vous avez des mots comme campagne, qui vient de la région de Normandie, tandis que champagne vient d'une autre région. L'anglais, on le sait, a emprunté beaucoup de mots au français, mais ces mots sont venus à travers ce qu'on appelle la conquête normande. Ce sont les Normands qui ont conquis la Grande-Bretagne.
Et donc, comment est-ce qu'on dit charpentier en anglais ? Eh bien, on dit carpenter.
Vous avez la forme normande du mot français et non pas la forme extérieure à la Normandie, qui est celle du français moderne. Et donc, vous avez ici une différenciation d'abord régionale qui a fini par se cristalliser de telle manière que vous avez vraiment deux usages différents. Et en quelque sorte, l'anglais est un bon témoignage de l'histoire de la langue française également.
Et donc finalement, ce travail de linguistique historique, je trouve qu'il insuffle un vrai vent de fraternité à un endroit où il n'y en a pas forcément, en pointant du doigt les évolutions, les échanges, les emprunts. Est-ce que ça montre pas qu'on est tous égaux, qu'on a tous beaucoup à s'apporter ? Quoi, vous me voyez venir ? Bah ouais, évidemment, c'est trop beau. Allez, faites entrer les nazis.
La notion de famille de langue est né précisément sur le modèle des sciences naturelles à une époque qui était en train de développer la classification des êtres humains sur le modèle des sciences naturelles. Donc il y a eu en parallèle les dérives anthropologiques sur la classification de ce qu'on appelait les races humaines ou les espèces humaines et la classification des langues. Et certains ont eu tendance à associer les deux phénomènes, c'est-à-dire considérer que chaque langue reflétait un peuple. Et c'est surtout du côté anthropologique qu'on a vu des dérives apparaître, d'abord en France, puisque l'une des premières formulations des dérives racistes et anthropologiques, c'est quand même Gobineau, avec son essai sur l'inégalité des races humaines. Et ensuite, ça a été diffusé très largement en Europe, et ce sont ces dérives qui se sont cristallisées dans le nazisme à partir des années 20 et 30, hein, mais qui n'avaient pas beaucoup de rapport avec le point de départ linguistique, et ont simplement été le réceptacle de dérives anthropologiques largement véhiculées par des amateurs. Les linguistes travaillent sur la langue, et ils ne sont évidemment pas indifférents aux réalités socio-historiques qui accompagnent les langues, mais ils n'établissent pas de corrélation simpliste entre la langue et le peuple. Et je pense que la bonne attitude d'un linguiste, c'est d'abord d'admirer la diversité des langues, d'admirer la diversité des cultures, et de travailler sur cette diversité d'une manière plurielle et complexe.
Je pensais pas que la linguistique nous amènerait sur ce terrain-là. Mais puisqu'on parle racisme et persécution, et puisqu'il est essentiel de regarder dans le passé pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui, attardons-nous un peu sur cette question. J'ai rencontré Claire Zalk.
Je m'appelle Claire Zalk, je suis historienne, directrice de recherche au CNRS.
Elle travaille à l'Institut d'histoire moderne et contemporaine et son travail actuel porte sur une ville.
On parle de quelle ville ?
Donc c'est la ville de Loubartouf, qui s'écrit Loubartov, O-W, qui est une ville située à 30 km de Lublin en Pologne.
Cette ville de Pologne, pourquoi est-ce que vous l'étudiez ?
Mon projet, c'est d'étudier pas tant cette ville que les personnes justement originaires de cette ville. Donc c'est mettre à l'épreuve de l'histoire, mais de l'histoire sociale des habitants de cette ville, ce que c'est que l'origine. Qu'est-ce que c'est que être originaire d'un endroit ? Ça, c'est la grande question de ce projet. Et de la travailler à l'épreuve de deux grands phénomènes du XXe siècle, que sont la persécution, qui est là prise dans une version paroxystique, qui est la Shoah, puisque je travaille sur les Juifs originaires de cette ville, et l'émigration, qui est aussi l'un des grands phénomènes du XXe siècle. Alors pourquoi elle ? Ben, elle était assez bien située, parce qu'il fallait que ça ne soit pas non plus une énorme ville. Je ne pouvais pas prendre Lublin ou Varsovie, puisque l'idée, c'est de reconstituer tous les parcours un par un. Hein, donc, il faut que ce soit quand même possible.
Reconstruire les parcours de tous les Juifs de Loubartouf depuis l'entre-deux-guerres. La tâche paraît immense. Mais concrètement, on parle de combien de gens au départ ?
Il y avait 3500 Juifs au début des années 30, 3200 juste avant la guerre, puisqu'il y a eu une première émigration assez forte dans les années 30. Et puis, en 1947, il reste 35 personnes qui reviennent en ville. Et puis, très vite, il n'y en a plus du tout. Donc d'abord, il y a eu évidemment la Shoah, qui a exterminé une grande partie de la population. Et puis, ceux qui ont réussi à s'en sortir, et qui, je crois qu'il y a 18, si je me souviens bien, il y a 18 personnes qui survivent sur place, cachées. Et puis, sur ceux qui ont réussi à survivre, notamment en partant à l'Est, dans les territoires de l'Est, lorsqu'ils reviennent dans la région très rapidement, ils se rendent compte que c'est très compliqué de récupérer leurs biens. Il y a plusieurs actes antisémites en 1945 et 1946 dans la ville. Le siège de la nouvelle communauté juive est attaqué à coups de pierre. Et comme dans beaucoup de ces villes de Pologne, des pogroms qui ont lieu juste après la Deuxième Guerre mondiale et qui font que la plupart des Juifs vont quitter la ville, et voir l'intégralité dans cette petite ville. Peut-être pour s'installer soit dans de plus grandes villes, soit pour partir dans les camps de personnes déplacées et migrer dans d'autres pays.
Vous imaginez bien que j'ai demandé à Claire Zalk de me raconter les parcours des Juifs de Loubartouf. Mais je me suis vite rendu compte que c'est une question bête. Tout le monde a des parcours différents. Faire des généralités ou des moyennes, ça va complètement à l'encontre du principe même de son travail. Alors je lui ai posé une autre question. Qu'est-ce qui l'a le plus étonné ?
Si je fais ce travail, moi, c'est pour être étonné. Je ne cesse d'être étonné. D'abord, il y a des choses qui m'étonnent sur mon propre rôle d'historien dans cette histoire. Ce qui a été très étonnant, c'est comment mon enquête a été appropriée par tout un ensemble de personnes. Dès le début de ce projet de recherche, il y a un site internet qui a été mis en place. Et très rapidement, après la publication des premiers posts sur le site, il y a des personnes originaires de la ville qui nous ont contactés. Et ça a ouvert une partie de l'enquête tout à fait nouvelle. Donc ça m'a questionné aussi interrogé sur mon rôle d'historienne et mes pratiques, mais aussi sur le rôle que l'enquête produit, non seulement sur ces trajectoires, puisque j'arrive très souvent avec, par exemple, des photos de leurs ascendants à ces personnes-là qu'ils n'ont jamais vues. Il y a quelque chose qui se passe, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que c'est que ce rôle ? Est-ce que j'ai le droit de montrer ça ? Qu'est-ce qui se joue ? Et puis, j'ai créé de l'origine, puisque autour de moi, c'est agglutiné un certain nombre de groupes qui étaient auparavant uniquement sur des bases nationales. Donc, par exemple, l'Association des Originaires des Israéliens ou l'Association des Originaires des Français ne savaient pas l'un et l'autre qu'il y avait des associations dans les deux pays. Et à cause de moi, ils se sont rencontrés, ils ont organisé un voyage ensemble. Et donc là, vous voyez, c'est mon rôle d'historienne qui a provoqué quelque chose dans l'invention de l'origine et dans la mise en pratique de cette origine. Il y avait une attente dans cette période, ces années 2000, 2010, 2020, où l'origine est tellement importante dans la définition de soi socialement. Et donc, je pense que je suis la bonne caisse de résonance d'un certain nombre d'attentes. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a énormément étonnée. archivistiquement, ensuite, ce qui m'a beaucoup étonnée, je crois, c'est des histoires de parcours de famille littéralement transnationales où chacun des frères et sœurs va dans un autre pays et construit une vie dans cet autre pays. Ils sont à la fois liés par le fait qu'ils sont frères et sœurs et qu'ils viennent du même endroit, et en même temps, ils ont des trajectoires éminemment nationales dans la manière dont leurs enfants vont être insérés, dans les langues qu'ils vont parler. Et donc, c'est à la fois ces deux choses, c'est-à-dire qu'ils sont liés par cette origine et par leur lien familial, et en même temps, ils ont cette nationalisation des trajectoires. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, en fait. Et je ne m'attendais pas à voir des éclatements aussi forts.
C'est intéressant, ces familles éclatées entre plusieurs pays. J'ai demandé à Claire Zalk comment ça se passait dans ces situations. Est-ce que l'origine commune prime sur le pays d'arrivée, ou est-ce que l'intégration dans le pays se fait au détriment d'un renoncement à ses origines? Bon, évidemment, c'est ni l'un ni l'autre.
Il n'y a pas une antinomie entre être, je dirais pas fier de son origine, mais être conscient de son origine et la revendiquer dans un certain nombre de scènes, et pouvoir être extrêmement inséré, intégré dans un endroit particulier. Et il me semble que c'est précisément toute cette rhétorique identitaire autour de l'origine qui considère qu'il y a des bonnes et des mauvaises origines et que les deux choses sont exclusive, en fait, que si on revendique son origine qui ne serait pas française, on serait pas un bon français, pour le dire de manière très caricaturale, mais il y a quelque chose de très très imprégné là-dessus. Pour s'assimiler, il faut renoncer. Et ce que montre l'histoire de l'immigration sur ce cas-là, mais sur d'autres cas aussi, c'est que précisément l'intégration se fait beaucoup grâce à la revendication des origines, et que c'est comme ça que il y a aussi une manière de s'intégrer. C'est-à-dire que le fait de devoir couper quelque chose n'est certainement pas la bonne manière de s'assimiler, je crois. Donc j'ai l'impression que c'est cette antinomie, qui est une antinomie des discours politiques, qui ne se réalise pas du tout lorsqu'on observe les faits, les trajectoires de ces personnes-là.
C'est la question la plus bête généralement à poser à un chercheur, mais à quoi vous pensez que votre recherche sert ?
Raconter des histoires d'hommes et de femmes confrontés à la migration et à la persécution, ça dit souvent bien mieux, bien plus de choses que des grandes réflexions qui n'étaient pas empiriquement situées. Donc si c'est pour rappeler la complexité, je pense que dans une société justement où on a tendance beaucoup à simplifier, surtout autour des questions d'origine, et à dire beaucoup de contre-vérités, ben, si ça pouvait servir à ça, ce serait déjà pas mal.
Sur ces belles paroles, on va continuer notre coup d'œil dans le rétroviseur, notre retour aux sources, mais on va s'intéresser à présent à des objets, de vieux objets dont l'origine est difficile à cerner.
Alors ce matin, je vais au Louvre, mais je passe pas par la pyramide, je passe pas par l'entrée des visiteurs. En fait, je vais pas au musée, je vais dans les sous-sols du Louvre.
Je me rends au C2RMF, le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France. Ils sont dans les sous-sols du Louvre. Et tout juste arrivé, on me conduit dans une réserve.
Alors là, normalement, personne ne rentre, sauf les gens qui sont habilités. Donc,
c'est un lieu impressionnant.
Là, je vois des tableaux et des tableaux et des tableaux et des rangées de tableaux. Là, des sculptures. C'est une momie, ça? Enfin, c'est le...
Un sarcophage de momie.
Voilà. Et alors là, une petite valise d'agent secret.
Voilà, voilà, voilà. Cette petite valise. Et voilà les échantillons sur lesquels on va travailler. Des bouts de grenouille, des bouts de doigts, des bouts de lézard. On va voir ça.
Alors, vous l'aurez compris, ce ne sont pas de vraies grenouilles, de vrais lézards ou de vrais doigts, bien que ce soit très réaliste. Non, ce sont des œuvres en céramique. Mais par contre, pardon, je vais un peu vite. Je ne vous ai pas présenté ma guide.
Qui êtes-vous ?
Je suis Anne Bouquillon. Je travaille au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France et je suis ingénieure de recherche spécialisée dans la céramique
Et là, on entre au laboratoire.
On va pouvoir regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette valise.
Ce sont les échantillons qu'on a reçus du musée des Coins. C'est le musée de la Renaissance.
Ces échantillons sont des fragments de céramique de M. Bernard Palissy, un grand savant français de la Renaissance. Alors, vous n'avez peut-être pas entendu parler de lui. Hein. La céramique, c'est pas forcément l'art, l'artisanat le plus connu ou le plus reconnu de l'histoire. Mais pour résumer, Bernard Palissy est possiblement le plus grand céramiste de l'histoire. Ses œuvres sont troublantes de réalisme, tant dans leur forme que dans leur couleur. Il a été capable de faire de l'émail, c'est-à-dire cette couche de verre coloré qui recouvre la terre cuite. Il a été capable de faire de l'émail d'une manière qu'on n'avait jamais faite avant. Et plus étonnant encore, qu'on n'a jamais réussi à refaire depuis. C'est un mystère total. Les couleurs, les effets de transparence et d'iridescence, on n'est pas loin de 500 ans plus tard et on ne comprend toujours pas comment il a fait.
Vous voyez ici, vous avez un fragment de grenouille et vous avez l'impression que vous avez la peau gluante de la grenouille. Parce que son objectif était de retrouver l'aspect que Dieu avait donné à sa création. Ici, vous allez retrouver, même sans que je vous le dise...
C'est un poisson.
C'est un poisson. C'est extraordinaire,
Oui.
Parce que regardez...
On dirait qu'on vient sortir une nablette de l'eau, quoi.
Eh bien oui, il est bien frais, il est bien vivant, ça n'a rien à voir avec l'aspect un petit peu...
Granuleux
et un peu gluant de la grenouille.
Donc il utilisait des ingrédients hors du commun pour avoir ces résultats-là?
Ah mais pas du tout. Alors, en plus, Bernard Palissy a écrit... Les émaux de quoi j'ai fait ma besogne sont constitués d'eux, et puis il énumère les constituants du sable, du plomb, des oxydes, mais c'est ce que tout le monde sait. Et donc il ne nous dit rien, et il est prodigieusement agaçant.
Pour résumer donc, Bernard Palissy utilise exactement les mêmes ingrédients que tout le monde, mais il obtient des résultats radicalement différents. Il est taquin, Bernard. Il est têtu. Il veut pas dévoiler ses secrets. Mais face à lui, il a Anne Bouquillon, je vous rappelle, qui est têtue aussi et qui est bien décidée à percer les secrets de ses céramiques. Mais alors, comment on fait ? Comment on fait pour retrouver la recette originale d'une céramique sur la base d'un fragment vieux de 500 ans ? Bon, eh bien, on commence par prendre une perceuse. Avec la perceuse, on fait un prélèvement d'un échantillon de terre cuite dans la grenouille, dans la profondeur. Et ensuite, on passe au scalpel pour récupérer un peu d'émail.
Et je vais essayer d'avoir une toute petite écaille verte.
Et une fois l'échantillon de glaçure récupéré, c'est le moment de rentrer dans le dur. Direction la salle 354.
Voilà, salle 354, le microscope électronique à balayage.
Ok.
On est dans une des salles qui est les plus utilisées. Le microscope électronique à balayage est utilisé vraiment en routine.
C'est un peu plus gros que le microscope que j'avais en classe de SVT, on est d'accord?
Oui, on est d'accord. Et là, il y en a deux.
Ces microscopes électroniques à balayage, ce sont de grosses machines grises, l'air pas commode, reliées à des PC. C'est des microscopes, mais pas du genre de ceux que vous connaissez, qui font loupe, dans lesquels on peut regarder, non. Voyant que j'étais un peu perdu, Anne Bouquillon et ses collègues m'ont fait un cours accéléré sur le fonctionnement d'un microscope électronique à balayage. Et en fait, cette machine, elle grossit pas l'image. En fait, elle bombarde l'échantillon avec des électrons, et les molécules de l'échantillon deviennent excitées, et en réponse, elles émettent à leur tour des électrons et des rayons X. Et c'est ça qu'on va venir capter, et qui va nous permettre, non seulement de fabriquer une image, mais aussi... d'analyser la composition, de connaître les éléments qui constituent la matière de l'échantillon.
Donc là, on a donc du plomb,
ouais.
De la silice, donc qui constitue le verre, du sodium, du magnésium, de l'oxygène, toujours puisque c'est fait sous forme d'oxyde.
Là, on retrouve peu à peu la recette de sa glaçure.
On retrouve les éléments chimiques qui sont dans sa glaçure. Et donc, à partir de là, on va reprendre la phrase de Palissy, les émaux de quoi je fais ma besogne sont avec de l'arène, donc du sable, avec du plomb, machin, etc. Donc,
oui, parce qu'en fait, voilà. Oui, non, lui, il n'utilisait pas des éléments parfaitement... Lui, il était au XVIe siècle et
il avait du sable, Il va utiliser de la salicorne, de la cendre de salicorne, et donc on va trouver le sodium. Alors le plomb, je crois que c'est de la litharge.
Ouais, c'est ça.
La litharge, donc voilà. Ensuite, il dit, j'utilise aussi de la pierre de Périgord, j'utilise de la craie.
Parce qu'en fait, vous avez des résultats ultra précis,
oui,
mais qui ne vous disent pas encore quelle est sa recette.
Non. Et c'est ça. Voilà.
Ben ouais, on peut savoir les éléments, les éléments de la table périodique des éléments, mais ça fait pas une recette. Par exemple, mettons le cobalt. Le cobalt, c'est un élément du tableau périodique des éléments, mais ça n'existe pas naturellement sous une forme pure, surtout à la Renaissance. C'est du minerai, et donc c'est mélangé à d'autres éléments, à des éléments traces. Et c'est ces éléments traces qui vont nous permettre de continuer l'enquête.
Si vous avez cobalt arsenic, ou cobalt bismuth, ou cobalt fer, ou cobalt manganèse, c'est pas les mêmes origines.
Ah, mais on peut retrouver l'origine géographique, de là où ça a
pour
pu être tiré.
Cobalt, oui, c'est ce qu'on recherche. Comme ça n'est pas le même environnement géologique, ce ne sont pas les mêmes éléments traces. Comment Palissy faisait-il? Et là, comme on a souvent cobalt, bismuth, arsenic, etc. chez Palissy, on se dit, c'est pas la même chose que ce qu'on retrouve chez Della Robbia.
Della Robbia, c'est un autre céramiste de la Renaissance. Il n'avait pas les mêmes fournisseurs.
Il n'avait pas les mêmes fournisseurs, donc c'est peut-être pas Venise. Mais si c'est pas Venise, d'où ça vient?
Bah ouais, d'où ça vient? Peut-être que comme un grand cuisinier, Palissy avait des fournisseurs rien qu'à lui pour ses produits du terroir. Bon, eh bien, il ne nous reste plus qu'à repérer les éléments traces pour découvrir où ils se fournissaient. Mais le problème, c'est que par définition, les éléments traces, eh ben, c'est en très faible quantité. En si faible quantité que même un microscope électronique à balayage, il est incapable de les repérer. Et donc là, il va falloir sortir l'artillerie lourde. Mais c'est vrai que les panneaux à tension nucléaire, ça fait toujours bizarre. Anne Bouquillon m'amène dans une nouvelle salle et je suis un peu surpris par ce sur quoi je tombe. Oh putain. Ok. Je vous présente Aglaé. Aglaé, l'accélérateur de particules du Louvre. Un joli bébé de 27 mètres de long, seul accélérateur de particules au monde à être entièrement dédié à l'étude de l'art, mesdames et messieurs. Fondamentalement, l'accélérateur de particules, il fonctionne comme notre microscope à électrons, mais là où le microscope bombardait l'échantillon avec des électrons et captait des rayons X, celui-ci bombarde avec des protons à la vitesse de 30 000 km par seconde, excusez du peu, et il capte ensuite des rayons X et des rayons gamma. Et c'est là qu'on vient lorsqu'on cherche à détecter des éléments qui sont présents en toute petite quantité, comme nos éléments traces dans les céramiques de Bernard Palissy.
Et ici, on va les détecter, non seulement on va les détecter, mais en plus, on va les mesurer. Donc c'est extraordinaire pour nous, ça.
Et c'est ainsi qu'Anne Bouquillon arrive finalement à retrouver les ingrédients de la recette. Mais évidemment, vous vous en doutez, la liste d'ingrédients, ça ne suffit pas à faire une recette, non. Une fois qu'on a les ingrédients...
Il faut retrouver les bons mélanges. Est-ce qu'ils partaient d'oxyde ou est-ce qu'ils partaient déjà de verre qui rebroyait, qui mélangeait? Quel type d'atmosphère il mettait dans ses fours? Quelle température il utilisait? Quelle était la conduite de la cuisson? Qu'est-ce qu'il avait comme combustible? Tout ça, on ne l'a pas. Et alors, petit à petit, on arrive à faire des pas les uns après les autres. Et puis, peut-être qu'un jour, on comprendra l'art de Bernard Palissy.
Il n'y a pas quelque chose de beau à se dire qu'on n'a toujours pas réussi à retrouver la recette originale?
Il y a quelque chose de splendide, il y a quelque chose qui nous rend plus riches aussi, parce que avec toute notre morgue de scientifiques actuels, avec tout ce qu'on a comme appareillage, on s'est dit ben, on n'a pas tout compris encore, et donc ça nous rend assez humbles. Voilà ce qu'il faut pour un scientifique quand même. Et puis, c'est extraordinaire parce que dès qu'on prend un petit objet de Bernard Palissy, on a des nouvelles questions, on a des nouveaux émerveillements. C'est beau au niveau de la matière, c'est beau au niveau des microstructures. Et voilà, on a là une chance inouïe de pouvoir travailler sur ça.
Oui, c'est une chance pour un scientifique d'avoir quelque chose qui lui résiste.
Ah, mais c'est plus qu'une chance, c'est un moteur. Chaque matin, on se dit, on va t'avoir, Bernard.
Alors, cet épisode aurait pu s'arrêter là, mais en discutant avec Anne Bouquillon, j'ai découvert une autre chercheuse et j'ai eu envie d'aller la voir. On va rester dans le monde de la céramique et de la recette, mais cette fois-ci avec un rapport très différent à la source, à l'original. Je vous présente Azilis Lebescon.
Azilis Lebescon de Coatepont, doctorante en troisième année de thèse à l'Institut de recherche de Chimie Paris.
Je l'ai rencontrée là où elle travaille, à Chimie Paris PSL.
Alors là, on est dans une des salles de manip du labo, donc de l'Institut de recherche de Chimie Paris, particulièrement côté équipe PCMTH. Donc c'est l'équipe sur la physico-chimie des matériaux témoins de l'histoire, un bien grand nom. Et moi, je travaille particulièrement sur la porcelaine de Sèvres, donc en partenariat avec Van Cleef & Arpels, pour travailler sur des compositions sans plomb pour les émaux utilisés à la manufacture de Sèvres.
Qu'est-ce qu'on risque d'avoir si on a du plomb dans le corps ?
Du saturnisme. Donc c'est vraiment, on devient tout blanc, on a du mal à respirer, il y a plein de soucis qui vont de « on se sent pas très bien » à « on meurt », ce qui est plutôt un problème.
L'émail dont on recouvre les porcelaines de Sèvres est souvent bleu, d'un bleu très particulier qui est spécifique à la manufacture de Sèvres, le bleu de Sèvres. Et quand vous avez un bleu qui porte votre nom, vous imaginez bien que la recette originale, elle est sacrée. Alors retirer le plomb, même pour des raisons de santé évidentes, c'est pas simple. On s'éloigne pas de la source comme ça. Mais je m'étonne quand même. Il est vraiment si important que ça, le plomb ?
Parce que c'est pas le plomb qui rajoute la profondeur à ce bleu.
Si, justement. C'est le plomb qui permet d'avoir des couleurs intenses. En fait, en enlevant le plomb dans les compositions, souvent on tombe sur des choses très ternes, qui perdent un peu leur éclat, leur saveur. Donc le plomb, c'est vraiment ça qui vient sublimer en fait une couleur. Et donc c'est difficile de trouver un remplacement.
Azilis Lebescon sort ses essais. Toute une gamme de bleus légèrement différents les uns des autres.
Donc là, c'est ma référence. C'est le bleu de Sèvres avec toutes les matières de Sèvres, fait à Sèvres tranquillement. Et ça, c'est mes essais à moi avec mes compositions sans plomb. Celui-là, si je me souviens bien, c'est un essai assez récent, celui-là, qui est un peu trop clair à mon goût.
Il est très joli, mais il est plus clair.
Beaucoup plus clair. Mm.
Sur celle-ci, par exemple, il manque quasi rien.
Oui, on n'est vraiment pas très loin.
Et ça peut être frustrant d'être à ce point proche de l'original, mais pas parfaitement dans les clous. Mais faut pas oublier une chose, Sèvres, c'est de l'artisanat. Et ce genre de petit écart, il peut être compensé par le savoir-faire des céramistes.
Donc ce que moi j'attends, ça peut être juste quelqu'un qui pose la couleur un peu plus épaisse.
Et ouais, pour filer la métaphore culinaire, si votre nouveau sucre, il sucre un peu moins que l'original, peut-être que la solution, c'est simplement de mettre un poil plus de sucre.
Potentiellement, vous allez vous trouver à la frontière entre l'ancien bleu de Sèvres et le nouveau bleu de Sèvres. L'original et le nouvel original. Ça fait quoi ?
Mais c'est assez impressionnant. C'est des siècles d'histoire derrière soi et devant soi, plein de possibilités.
Une exigence de fidélité à l'original qui est...
Oui, exactement. Réussir à dire, pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer à produire des choses artistiques impressionnantes, il faut évoluer. Donc c'est souvent, toujours des discussions. Est-ce que pour obtenir un nouveau bleu de Sèvres, on change le procédé ? Est-ce que c'est le procédé qui est important ? Est-ce que c'est la couleur finale ? Est-ce que on se sent de dire c'est le nouveau bleu de Sèvres, alors qu'il y a encore l'ancien au plomb ? Est-ce qu'on va donner un autre nom en disant non, c'est pas le bleu de Sèvres, c'est...
Le bleu Azilis.
Peut-être pas. Ça serait un petit peu mégalo.
C'est la fin de cet épisode de Tangram, le podcast de l'université PSL. Tangram est produit par l'université PSL, labellisé « Science avec et pour la société » par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il est réalisé par moi-même, Yann Plantier. Si vous aimez ce podcast, parlez-en à vos amis et puis mettez-nous des étoiles ou des commentaires dans votre application de podcast. Ça coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt !